Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le numéro 1078 de Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas rue d'Alsace-Lorraine à Saintes. Je rappelle que vous écoutez par exemple notre émission à Bergerac sur 95.5 et on peut se retrouver sur les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Pauline Lair, fondatrice et vinificatrice de 1006 Vin de Loire à Angers, le Vino Quiz pour gagner 6 verres Louis Philippe Soft de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier midi, on retrouve Philippe Bidalon et Philippe Orbach. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, pour
bonjour.
Bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord de Invino Sud Radio Maxime Cotenceau. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors racontez-nous, votre plus grande émotion, ça sera quand la France sera championne du monde de rugby en 2023 ou l'entrée en 2022 de vos vins dans le guide des meilleurs vins de France de la RVF? Attention à la réponse.
Moi je pense que je dirais peut-être champion de France 2023, je pense.
Champion du monde 2023.
Champion du monde, pardon. Ouais.
Bon. Vous continuez à jouer au rugby?
Oui, oui, toujours.
Et quel poste?
Talonneur.
Donc vous fréquentez les gros?
Voilà, c'est ça, c'est ouais. Ça.
Et vous n'êtes pas trop cassé quand vous rentrez travailler la vigne le lundi?
On va dire que le lundi, c'est un peu compliqué. Ouais.
Bon, alors racontez-nous votre histoire de vin. Donc, c'était naturel, vous êtes petit-fils, arrière-petit-fils de vigneron. Vous avez alors, un mentor dans votre vie?
Oui, alors un mentor, on va dire, où j'ai appris chez Vincent Dureuil-Gencial. Après, ma famille a toujours baigné en fait dans le vin. Mon père a repris l'exploitation de mon grand-oncle. Donc maintenant, ils ont une superficie de 22 hectares de vignes.
Ce qui est énorme. Hein.
Oui, ce qui est un joli domaine. Mais ils sont toutes en cave coopérative à la cave des vignerons de Buxy. Voilà. Et en sortant d'apprentissage chez Dureuil, j'ai voulu directement m'installer et faire ma propre aventure, donc de faire mon propre vin.
Voilà. Et vous avez acheté des vignes, vous en avez trouvé?
Non, mes parents m'ont mis à disposition 2,5 hectares de vignes. J'ai retrouvé un tout petit peu de vignes à côté, en fermage en plus. Et puis je me suis installé avec à peu près 3,5 hectares.
Vous avez quel âge là?
25.
C'est génial. Philippe Bidalon?
Oui, donc effectivement, Maxime s'est installé en 2018.
Hein. Oui, c'est ça.
Et depuis, il s'agrandit petit à petit. Alors toujours par fermage, hein, c'est ça?
Toujours.
C'est, voilà. Donc j'ai vu 86 arts en 2019, 2,9 hectares en 2021. Ça se fait progressivement, mais ça se fait. Et tout
Philippe
ça
Orbach,
en commerce bio.
Non, mais moi, je me disais qu'il valait mieux peut-être parler en ouvray, comme on parle en Bourgogne. Ça donne un peu plus de volume.
En millimètres carrés. Ouais,
un 24e d'hectare, donc si on multiplie tout ça par 24, finalement, ça donne tout de suite pas mal de...
Ah, là-bas, on chasse les corbeaux au bazooka, parce que au prix de... Alors, Philippe Bidalon.
Et alors, comme Maxime ne se facilite pas la tâche, il y a certaines parcelles, il les a rendues. Parce qu'elles étaient trop éloignées.
C'est ça. Par exemple, Mercurey, ma parcelle de Mercurey. Bon, c'est à 20 minutes en voiture, mais quand on est en enjambeur où ça roule à 20 km/h, ça fait une heure de route. Surtout une année comme 2021 où il pleut souvent, faut tout le temps faire les traitements, labourer, etc. Donc
le côté pratique,
on est tout le temps sur la route. Voilà. Ouais. Donc c'est une bonne expérience qui nous montre des vignes trop éloignées. Dans des années difficiles, ça ne marche pas.
Voilà. Philippe Bidalon?
Oui, et donc en fait, on pourrait presque dire qu'avec Maxime Cotenceau, on connaissait les vins de garage, mais là, c'est les vins de jardin. Parce que sur des si petites surfaces, vous arrivez quand même à tirer plus d'une douzaine de cuvées.
12 cuvées?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... En fait, nos ancêtres nous ont laissé les climats, les lieux-dits en Bourgogne, et je trouve ça magnifique de pouvoir en fait
jardin de curé,
les remettre, voilà.
Oui, c'est ça. Oui.
Surtout sur l'appellation Montagny où il n'y a pas beaucoup de lieux-dits qui sont revendiqués chez mes collègues.
Philippe Forbach, parlons justement de l'appellation Montagny. C'est pas la plus connue de Bourgogne, et pourtant.
Pas la plus connue de Bourgogne, mais il y a de très jolis blancs parce que c'est une appellation qui fait du blanc.
Oui.
Voilà pourquoi c'est pas connu, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de vignerons qui ont fait cet effort de reconnaissance des parcelles,
oui.
D'aller peut-être rechercher, même si même si c'est pas toujours la panacée, mais cette reconnaissance plus large. Il y a aussi la cave.
Oui.
Il y a un système coopératif qui est assez développé. On s'aperçoit effectivement que les appellations qui marchent, c'est aussi celles qui ont su travailler en coopérative quand ça a été nécessaire. Et à une époque, c'était le seul moyen de mutualiser effectivement des efforts et des gens et du matériel.
Le système en lui-même, il est parfait. Voilà. Hein.
Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir effectivement être capable d'avoir un certain nombre d'ambassadeurs, il faut sortir de la cave.
Oui.
Il faut être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on amène jusqu'au bout, de ce qu'on va commercialiser. Et la cave a des vertus, mais aussi ses limites. Dans ce
absolument.
Sens-là.
Quoi. La gamme de prix, Maxime, notamment. On est de combien à combien dans vos vins?
On part de 11 euros pour mon aligoté jusqu'à 25 euros pour mes premiers crus.
Oui, donc ça reste quand même raisonnable. Hein,
ça, c'est vraiment. Un prix public caveau ou
prix public caveau. Et en principe, une moyenne sur Paris.
Chez même les le premier cru.
Oui. Et chez les cavistes à Paris, ils sont à peu près à 28, 29 euros.
Oui, donc c'est vraiment un très, très bon rapport qui a été pris. Quoi. C'est... Ah, ouais. Et combien de bouteilles au total, vous dites, vous produisez en moyenne
enfin, normalement, l'exploitation aujourd'hui, sur une année normale, pourrait tourner à 35 000, 40 000 bouteilles par an.
Ouais, ce qui est pas mal. Hein.
Mais j'ai jamais connu une année comme ça. Donc aujourd'hui.
2022, ça va être le paradis, Maxime.
Il y a le potentiel et il y a la réalité.
Voilà, c'est
Philippe Bidalon.
Rien que en Montagny, donc, il y a 8 cuvées.
Mais est-ce que c'est pas trop? Enfin, franchement, c'est pas pour être négatif, mais enfin, c'est monstrueux, 8. Hein.
Oui, alors c'est vrai que c'est pénible. Ça fait beaucoup de cuves, beaucoup de. Beaucoup
pour
de
vous, comme pour le consommateur, pour
c'est
tout le monde.
C'est ça,
hein.
Etc. Ouais. On peut se perdre, mais.
Pour le consommateur, il y a un côté découverte, il y a un côté ludique.
D'accord, mais quand on aime une cuvée, il y en a 7 autres, ouais, enfin,
ils
s'y
achètent les 8 et puis comme ça, ils avaient 6 copains.
Si c'est pour le business, Philippe, c'est différent.
L'objectif, c'est combien de cuvées finalement?
300.
Alors pour le moment, en fait, toutes les cuvées sont représentées. Mm-hmm. Si j'ai un jour la possibilité de reprendre une parcelle, je referai une nouvelle cuvée. Voilà.
C'est votre marque de fabrique, c'est votre philosophie.
Oui, on va dire ça. Oui.
Philippe Bidalon.
Alors, il y a une autre philosophie, c'est le bio et la biodynamie.
Biodynamie, c'est pas revendiqué, mais j'essaye de travailler une approche. Voilà, c'est surtout
notamment le cycle lunaire.
Le cycle lunaire, voilà.
Philippe Fabrice, qu'est-ce que c'est que ce cycle lunaire et qu'est-ce qu'il vient faire avec les cèpes de vigne?
Ce cycle lunaire, il est très connu des gens qui s'occupent de l'agriculture depuis longtemps, au-delà de la viticulture. À lune montante, par exemple, on travaille plutôt l'extérieur du sol, la vigne, le raisin quand il est là. Et à lune descendante, l'énergie poussant vers le sol, on travaille plutôt les racines, le sol. Donc c'est un cycle qui est évident. Un personnage auquel on pense quand on évoque le cycle lunaire, c'est Maria Thun qui a écrit ça d'une façon assez précise et qui a mis en valeur ça, associé aux démarches de Rodolphe Steiner dans les années 20 et 30.
Un grand copain de David Cobold.
Et ça a donné naissance effectivement à cette approche biodynamique. Mais ne serait-ce que le cycle lunaire, déjà, c'est super important.
Ouais.
C'est une sorte de pression atmosphérique. Ça joue sur nous. La pleine lune, elle a un effet sur les cultures, mais aussi sur notre comportement, sur notre réaction par rapport à l'univers. C'est pas étonnant qu'effectivement la viticulture puisse s'imprimer de ça et en tout cas en bénéficier de ce qu'on s'en sert.
Ah oui, mais hier soir, Philippe Bidalon était impressionnant sur la Tour Eiffel avec la pleine lune.
C'est ça.
Ça joue aussi sur la dégustation.
Absolument.
Absolument. Et puis il y a des jours. Il y a des jours ou des moments dans la journée même qui sont plus propices. Quand on regarde de façon précise ces fameux calendriers, on s'aperçoit qu'il y a des jours fruits, des jours fleurs, des jours racines, des jours pierres, etc.
Et ça, vous le suivez, Maxime, à la lettre?
Ça influence la perception qu'on peut en avoir.
Surtout en cave, quoi. Ouais.
En vigne, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que je suis tout seul sur l'exploitation. Quand on est tout seul, on ne peut pas faire comme on veut tout le temps. Quoi.
Donc, et votre mentor, donc, vous le revendiquez, hein. Heureusement qu'il était là.
Oui,
qu'il est là.
Heureusement, il l'est encore. Je le côtoie énormément encore aujourd'hui. C'est vrai que, on va dire que j'ai appris les bases chez mes parents depuis tout petit.
Oui.
Et on va dire que, avec Vincent, c'est le côté minutieux, pointilleux. Où c'est intéressant de travailler avec lui.
Il a quel âge? Vous avez combien de différence d'âge tous les deux?
Il arrive, il a une cinquantaine, il a 50 ans.
Vous avez 25 ans,
voilà,
lui a 50 ans.
D'écart, mais je pense qu'il a toujours 25 ans dans sa tête.
Cette notion de transmission, Philippe Fourbrac, on l'a clairement dans le vignoble. Alors là, il n'y a pas de rapport filial prouvé en tout cas.
Oui, mais oui, d'une façon générale, oui. Lorsque j'allais dire, on trouve la clé. Le savoir existe. Encore faut-il que les gens qui veulent en bénéficier trouvent les bons mots, la bonne attitude, le bon mentor aussi, tout simplement.
Ouais, Philippe, vous faites un peu la moule, là. C'est quoi? Vous dites quoi? C'est chacun sa pomme ou chacun son raisin?
Oui, non, je suis pas persuadé. Mais...
Si certains gardent pour eux, je pense que quand on a des démarches similaires, quand on a du respect aussi par rapport aux gens, aux générations, etc., souvent, enfin, personnellement, j'ai plutôt moi tendance à penser que les gens expliquent ce qu'ils font.
Et vous, Philippe, vous avez quelques expériences où les vieux grincheux gardent tout pour eux ?
Non, c'est pas forcément un problème d'âge, mais je veux dire, je suis pas persuadé qu'effectivement la notion de partage ou de transmission soit si répandue
au sein des vignerons, quoi. C'est intergénérationnel.
Oui, ça dépend des vignobles, mais notamment la Bourgogne. Je suis pas persuadé que ce soit l'endroit où on partage le plus.
Bon, le tourisme, Maxime. Alors, on fait la fête toute l'année là chez vous, ou pas?
Si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir. C'est vrai qu'il y a la
parce qu'on s'ennuie à mort à Paris avec les deux Philippe.
Oui, c'est vrai que le nous tourisme sur la Saône-et-Loire, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, ça laisse pas mal de...
Pourquoi il y a beaucoup de travail à faire? Parce que...
Je pense qu'en Bourgogne, notamment en Côte Chalonnaise, où c'est moins couru que surtout la côte d'Or, nous juste à côté. Donc il y a plein de choses à faire. On est en retard par rapport à eux, ça c'est sûr.
Mais les Bourguignons étaient vraiment très ouverts parce qu'une des premières routes des vins, c'était quand même la Bourgogne avec l'Alsace, hein, même d'ailleurs antérieure à la Bourgogne. Et de temps en temps, on se dit, tiens, les Bourguignons ne sont pas forcément les plus sympas spontanément, sachant que des jeunes comme vous, là, vous ouvrez, vous souriez.
Moi je sais que la porte est grande ouverte, donc quelqu'un qui veut venir, il peut venir.
C'est la côte chalonnaise, hein, c'est effectivement. On est,
c'est plus compliqué. Comment
dire, c'est dans la côte de nuit, les portes sont quand même beaucoup moins ouvertes.
C'est vrai. Pour terminer, les températures de service au vin, c'est important. Donc, vos 8 cuvées, est-ce qu'on peut les servir à la même température ou il y a une température par cuvée ?
Non. Enfin, entre les rouges et les blancs, déjà, il va y avoir une petite différence. Après, les blancs, j'aime pas trop quand les blancs sont trop frais. Je trouve que ça casse.
Donc, vous conseillez quoi, 12, 13 ?
13, même 14, ça ne me dérange pas. Et puis les rouges, 15, 16. Quoi.
C'est important, Philippe, de ne pas se tromper sur la température.
Absolument. Le message n'est pas le même du tout concernant la texture, l'acidité, la perception de la générosité du vin. Et souvent, les blancs sont servis effectivement trop froids. C'est une habitude de le mettre au frigo et de le servir. Ouais. Et on s'aperçoit que quand il monte un peu en température autour de la table, il donne beaucoup plus d'œufs, il y a plus d'âme, plus de messages gustatifs.
Bien sûr, la quintessence
du vin. Même si c'est moins habituel, donc il y a des gens qui peuvent dire « Ah, c'est pas assez frais ». Mais si, comme on dit souvent, mettez le vin dans la bouche, ne l'avalez pas tout de suite, profitez-en au passage. Et là, quand les gens se ferment un peu les yeux, font ça, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ça monte en température et ça reste très bon.
Maxime, votre site internet ou votre adresse ?
J'en ai toujours pas.
Toujours pas, non, hein, non, voilà. Rien du tout ?
Non, j'ai toujours pas. Okay.
Donc vous allez en Bourgogne, Cachalonnaise. Salut Maxime, voilà, puis il arrive. Merci beaucoup. Merci. Philippe Hidalon, Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas à Sainte avec le Vino Quiz pour gagner 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas de Sainte, rue Alsace-Lorraine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, on vous remercie. On peut se retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour les actualités et vos coups de cœur aussi. On retrouve Philippe Forbrach pour le Vino Quiz, mon cher Philippe.
Et je vous rappelle le principe, chaque semaine, vous posez une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Par exemple, cette semaine, 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table, en jouant tout simplement sur invinoradio.tv. Voici la question du week-end. Quel métier Benoît Gérard exerçait-il avant de décider de vivre de sa passion, le vin ?
Réponse 1.
Chauffeur de bus.
Réponse 2.
Chef cuisinier.
Et réponse 3.
Agriculteur. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, les fameux 6 verres Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite des tirs au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe Forbach, Invino Sud Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Pauline Lair. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Alors vous êtes diplômée notamment de l'ESCA et c'est en 2015 que vous avez pété les plombs, vous avez tout plaqué pour devenir vigneronne, quoi, c'est ça ?
C'est un peu ça effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre cœur, tout ça ?
Eh bien, j'avais l'envie de devenir vigneronne depuis de nombreuses années et en vivant à Paris et en étant dans le marketing du vin.
Et vous vendiez des grands crus, vous marketiez de la vodka,
là,
plein de choses.
Oui, tout à fait. Mais c'est quand j'ai travaillé chez Castel en tant que chef de produit marketing à l'export que j'ai décidé finalement de tout quitter, partir en Nouvelle-Zélande et découvrir en fait le métier de la vigne et du vin dans un domaine en biodynamie pendant 9 mois.
Extraordinaire, c'est Philippe Dialon, c'est beau ça, non ? Il faut du courage aussi. Hein ?
Oui, non, absolument. Surtout que vous avez une expérience hein, de vigneronne en Anjou.
Oui, ça c'est après, effectivement, en 2019.
Ça s'est pas très bien passé.
Juste avant quand même, la Nouvelle-Zélande. Comment s'est passé la Nouvelle-Zélande?
C'était où en Nouvelle-Zélande? Très, très bien.
Sarah's Inn Estate. Donc c'est l'île du Sud, le Nord, Marlborough Valley, et donc un domaine en biodynamie absolument magnifique. J'ai travaillé.
Un petit domaine, un grand domaine, Pauline?
150 hectares.
Ah oui, donc c'est un grand domaine.
Alors non, finalement non.
Petit à l'échelle. Voilà,
c'est
la région là-bas.
C'est considéré comme boutique estate là-bas. Et pour nous, oui.
150 hectares. Il y a des moutons, il y a des montagnes.
Et les Néo-Zélandais sont sympas parce que rugby, ils ne les aiment pas du tout. Mais sinon.
Ça dépend des endroits, mais globalement oui, ce sont des gens sympathiques.
Et donc, vous avez trouvé facilement ce stage ou
Eh bien, en fait, j'ai sillonné de l'île du Nord jusqu'à l'île du Sud. Jusqu'à
vous avez tapé à toutes les portes.
Oui, exactement. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un winemaker qui m'a pris sous son aile. Je lui ai expliqué que je voulais devenir vigneronne et tout apprendre du raisin au verre de vin. Et c'est comme ça qu'il m'a fait travailler d'abord dans les vignes, puis dans le chai. Et que, fort de cette expérience, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait que je suis rentrée en France ensuite pour reprendre mes études. Dans un lycée viticole cette fois-ci.
Et alors, ce dont parlait de Philippe Bidalon, là, en Anjou, ça s'est mal passé?
Pourquoi vous dites ça?
Non, c'est parce que vous savez pas. J'ai cru comprendre que vous avez connu tous les aléas climatiques qui, effectivement, peuvent parfois décourager ou porter un coup au moral au vigneron.
Alors, en fait,
surtout
ça ne m'a pas découragé pour l'installation, simplement ça m'a fait réfléchir. Et l'expérience que j'ai eue à Savenières, donc en gérant le domaine, j'étais directrice d'exploitation donc, du domaine du Clauzel à Savenières pendant 2 ans.
Et domaine historique.
Oui, tout à fait, avec des très beaux terroirs.
Absolument.
Et cette expérience de 2 ans, elle m'a fait prendre conscience de 2 choses. La première, c'est que ce que je préférais faire, c'était faire du vin, avant même de cultiver la vigne. Et aussi, bien sûr, les aléas climatiques qu'a connu le domaine du Clauzel m'ont fait réfléchir. Alors qu'au départ, j'avais comme intention de m'installer sur 8 hectares de vigne en Anjou, plus un négoce de soutien en cas d'aléas climatiques. Finalement, je me suis dit, je vais m'écouter, et pour être pleinement épanouie, il faut que je fasse uniquement du vin, donc d'où le négoce 100% à taille artisanale et assumé en mettant en avant mes partenaires.
Voilà. Et alors là, d'un petit vignoble de 8 hectares, vous êtes passé à une aire de jeu de 1006 km.
Exact.
Alors pourquoi 1006?
C'est la longueur du
Vous appelez Pauline, vous
du fleuve, la Loire. Voilà.
C'est votre deuxième prénom, là.
Du Mont-Gerbier des gens jusqu'à Nantes. Allez,
1006 km, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc c'est quoi? C'est un jeu de mots? C'est un clin d'œil?
Non, c'est simplement pour trouver un trait d'union à tout ce que j'avais envie de faire et puis élargir mon terrain de jeu à la Loire, c'est quand même génial. J'ai une capacité à avoir peur de l'ennui et donc.
Mais ça se sent, vous lassez vite, vous, non?
Et du coup, c'est vrai que
c'est le Saint-Jacques de Compostelle version Loire.
C'est ça.
Et alors, c'est quoi le concept? Racontez-nous.
Alors, le concept, c'est que je suis vinificatrice. Donc, j'achète du raisin à des partenaires avec qui je travaille sur une base de 3 ans.
Oui.
Et je travaille des parcelles, c'est-à-dire que je fais des vins de terroir. L'idée étant de faire des vins qui sont différents tous les ans, évidemment, mais en travaillant une parcelle en particulier. Et en mettant en avant un couple cépage terroir emblématique de la Loire. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans le Muscadet chercher du melon de Bourgogne et jusque dans le Forêt, donc le premier vignoble après la source de la Loire, pour aller chercher du Gamay Saint-Romain.
Et tout ça, vous le mélangez ou vous faites des appellations?
Non, surtout pas.
Ah bon.
Surtout pas, je ne fais pas d'assemblage. Comme je vous le disais, ce sont des parcellaires. Donc, je vinifie des petits volumes. Tout cumulé pour en fait mettre en avant des vins de Loire.
Et vous avez combien d'appellations, je dois dire, présentées?
Alors j'en ai une, enfin 2, puisque je fais des IGP Val-de-Loire et du vin de France.
Et alors tout ça, vous le faites en centre-ville?
C'est exact, à Angers. Voilà,
donc dans un concept nouveau, quoi, c'est le concept des chais urbains.
Voilà. Ouais. Mais ça surfe sur les microbrasseries ou c'est différent?
Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, en voyageant à l'étranger, j'ai aussi vu ça, donc les urban wineries. Et comme je savais que je voulais faire un négoce, donc un négoce étant le fait d'acheter du raisin, de le produire ensuite, enfin de le vinifier ensuite, eh bien, je savais pas où m'installer, où vinifier. Et en Anjou, il y a une réalité, c'est qu'il est presque plus difficile de trouver un chai que des vignes. Et puis, comme j'avais vu ça à l'étranger, je trouvais ça intéressant de le faire à Angers, qui est une ville quand même en pleine ébullition.
C'est dynamique, c'est très dynamique.
Très dynamique. Et puis, j'aime bien aussi l'idée de ramener un peu d'artisanat dans le cœur des villes, chose qu'on voyait dans les années 60-70 et qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et souvent, je prends cet exemple-là, mais les boulangeries qui cartonnent, c'est les boulangeries où vous voyez la personne pétrir, enfourner, etc. Donc c'est un peu la même idée.
Oui.
Et puis c'est aussi pour accueillir les gens dans un contexte où ils vont vraiment être en immersion, ils vont vivre un peu l'expérience de ce qu'est faire du vin.
Il y a d'autres villes qui accueillent des vinificateurs.
Paris.
À Paris.
Exactement.
Paris.
Mais à part, qu'est-ce qu'il y a?
Bordeaux, Lyon, Marseille.
Donc c'est très tendance, ça, quoi.
Disons que ça se développe depuis 5-6 ans, je pense.
Et sur le même concept que vous, on achète des raisins et...
Alors, pas toujours. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est de faire du vin et le vendre. Et dans certains cas, il y a aussi une activité de restauration, bar à vin, caviste, oui. Concert, enfin, donc, ce qui n'est pas mon cas. Parce que je considère que c'est un autre métier, en fait, la restauration. Voilà, c'est quand même
et
en.
Et vous êtes dans le centre de la ville de.
Je suis pas très loin d'Angers, de la gare d'Angers, à 10 minutes à pied, quoi.
Voilà. Philippe Forbach, vous en pensez quoi? Parce que ça change quand même du traditionnel vigneron qui est dans le fin fond de ses vignes, là.
Ah, mais ça change un peu l'image, effectivement.
Avec ses moutons, il y a quand même très peu de moutons dans le centre d'Angers, quoi.
Exactement, mais ça apporte de la compréhension, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent en ville qui peut-être passer vous voir et échanger, même si vous faites de restauration, je pense que vous accueillez sur place.
Exactement, c'est tout l'intérêt d'être en ville, c'est de
pouvoir recevoir. Et dans une ville qui, en plus, vous le disiez tout à l'heure, bouge beaucoup, elle a d'ailleurs été élue il n'y a pas très longtemps, ville où il fait bon vivre.
Ne le dites pas trop.
Oui, les prix de l'immobilier vont augmenter.
Depuis 15 jours, 3 semaines. Là. Mais effectivement, donc, et moi qui vais, effectivement, c'est pratique depuis Paris en plus, donc on va facilement Angers, c'est 1h37 de train quand c'est en direct. Et c'est une ville agréable. Et il y a beaucoup de...
Il y a quelques beaux restaurants aussi.
Il y a de très jolis restaurants, exactement. Et le centre-ville est aussi très dynamique.
Oui.
Tous les endroits sont ouverts. Enfin, c'est pas un centre-ville.
Et alors, Pauline, après, quand vous allez les vendre aux bouteilles, le fait d'arriver avec ce concept qui est quand même très original pour une France profonde, d'abord, de voir une femme qui a beaucoup voyagé. Deux, avec un concept original. Vous vendez à qui? À des particuliers, à des restaurateurs, à des cavistes? Qui achète, in fine?
Alors, les particuliers.
Oui.
Donc, je les reçois au Chai. Ensuite, les professionnels cavistes et restaurateurs, dans l'Ouest et à Paris.
D'accord.
Et mes vins partent aussi un peu à l'export. Voilà.
Et c'est vous qui vous débrouillez avec votre ancienne casquette de commercial il y a quelques années déjà?
Oui, tout à fait. Philippe Aubrac, j'ai un agent quand même à Paris avec qui je tourne, mais sinon, c'est moi.
Tout à l'heure, Philippe, évidemment, vous avez posé la question de savoir combien d'appellations. Vous avez dit IGP et effectivement, appellations. Mais combien de cuvées vous avez?
J'en ai 10. En 2021, j'en ai 10. Sachant qu'il y a une trentaine de cépages plantés dans la Loire, ça me laisse un terrain de jeu quasiment infini, parce qu'il y a autant une multitude de terroirs.
Bien sûr.
Simplement, je ne pense pas aller jusqu'à 30 cuvées, ça va faire un peu beaucoup.
C'est pas mal déjà, 10. Hein.
10, c'est pas mal, mais j'ai dans ma besace énormément d'idées. Mon projet 2021, notamment, c'est de vinifier du Pinot de Nice, de faire pourquoi pas un autre chenin sur un autre terroir. Oui, tout à fait.
D'accord.
Je vais aller le chercher en coteau du Vendômois.
Ouais, c'est sa terre de prédilection.
Exactement. Et c'est en fait, toute l'idée de 1006, c'est d'aller chercher justement les cépages emblématiques.
Le bon cépage au bon endroit.
Voilà,
les duos, vous avez tout à l'heure évoqué le muscadet, le melon, le melon B.
C'est ça, le melon B, oui.
Le melon B, il faut faire attention. Le gamay Saint-Romain, effectivement, du Forêt. Et quels sont les autres duos que vous produisez?
Alors, je suis allée chercher du Cabernet Franc au sud de Chinon, parce que je le préfère planter sur du calcaire que sur du schiste. Du Chenin sur schiste, parce que, ayant travaillé à Savenir, c'était un petit peu obligatoire. Du Sauvignon Blanc, qui vient du Cher, de la vallée du Cher, donc sur des argiles à silex. Et puis de la folle blanche dans le muscadet, je fais un pétillant naturel avec ça. Et puis une petite particularité, j'avais envie de faire un vin blanc de macération, donc du pinot gris qui vient des coteaux d'Ancenis.
D'accord. Voilà. Et les vignerons, ils vous accueillent comment? Ils vous prennent pour une fille géniale ou une dingue?
Ça dépend, parce que j'ai deux types de partenaires.
J'ai deux types de vignerons. Ceux qui prennent pour une dingue, ceux qui m'aiment.
Non, mais globalement, ils accueillent bien l'idée. Il y a des partenaires qui, eux, ne font que cultiver la vigne, donc viticulteurs, viticultrices, qui soit livreraient à une coopérative ou à un gros négoce. Et donc, ils entendent ça d'une très bonne oreille, puisque je valorise leur travail. Je mets leur nom sur mon étiquette, donc il y a une transparence.
Il y a le nom du vigneron, ça c'est important, ça, oui.
Ouais. Et puis, comme on fait du parcellaire, ils voient la finalité de leur travail dans un vin. Et c'est vachement intéressant pour eux, finalement. Et de l'autre côté, j'ai aussi des partenaires qui sont vignerons ou vigneronnes. Et finalement, ça leur permet de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier, de diversifier un peu, d'avoir de la trésorerie avant de vendre leur vin. Voilà, donc ils ont tous une bonne motivation pour travailler avec moi. Et c'est ce que je dis souvent, c'est une double adhésion. Il faut à la fois qu'ils soient intéressés par le projet global qui est 1006. Et moi aussi, j'adhère à leur projet global de domaine.
Voilà. Philippe Bédalon.
La précision, c'est qu'en fait, toutes ces cuvées sont bio ou en conversion.
Le raisin est cultivé en respectant le cahier des charges bio, donc soit en conversion, soit certifié, ça dépend des partenaires. Et je travaille de manière naturelle en cave.
D'accord. Et l'objectif, donc, c'est de monter combien de bouteilles vous avez chaque année en ce moment?
Donc en 2021, je vais vinifier à peu près 40 000 bouteilles, donc ce qui fait...
40 000 bouteilles, d'accord.
Ouais, l'équivalent de 10 hectares de vigne à peu près.
Ouais.
Et à terme, mon rythme de croisière, ce sera 60 000 bouteilles.
60 000 bouteilles, ouais. Quoi. Et votre concept, vous voulez le décliner en faire une urban winery à Nantes, à Rennes, on reste, tout ça, ça reste à Angers. Quoi.
Ouais, c'est... Ouais. J'ai grandi dans le Layon, donc en Anjou. Je suis très attachée à ma région, c'est pour ça que je me suis installée à Angers. Ouais. Et ça va rester à taille humaine, donc ça sera Pauline Lair dans son chai. Après, peut-être que je diversifierai
mon
activité.
Pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Quoi. Merci beaucoup, je Pauline. Et on va suivre de près votre aventure. Merci Philippe Bidalon. Merci également à Maxime Cotenceau, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur invinoradio.tv, sudradio.fr, la page Facebook, le compte Instagram. On se retrouve samedi prochain chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822, à 13h30 précise. Nous recevrons donc Pierre-Maxime Chardigny, vigneron en Bourgogne et en Beaujolais. On aura également Benoît Guinabert, propriétaire du château Villefranche dans le Sauternes. Et d'ici là, excellent suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio et encouragez tous les vignerons français et en respectant, évidemment, faut jamais l'oublier, la plus grande des modérations. Salut, salut.
Sud Radio, Invino.